Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous sommes le vendredi 9 avril et nous allons débattre et commenter cette actualité avec Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous viendrez nous voir un jour quand même à Paris,
plaisir,
parce qu'on vous a
plaisir.
Tout le temps en Zoom. Éric Crevel, qui est dans le Sud, vous êtes éditorialiste. Bonjour Éric.
Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde.
Et Alexis bonjour. Poulain, vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis pour l'édito politique sur Sud Radio dans la matinale. Et Virginie Leguet, bonjour, vous êtes journaliste bonjour, bonjour et éditorialiste politique. Alors l'actualité, c'est l'annonce du président de la République de la suppression de l'ENA. On en a parlé un tout petit peu hier et je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire demain sur Public Sénat sur ENA, pourquoi tant de haine. Franchement, non mais c'est vachement bien. C'est un documentaire qui retrace l'histoire de l'ENA et qui montre qu'à travers les années, on lui a toujours fait ces reproches-là et que ça a été très dévoyé de ce qu'était au départ l'intention de cette école. Ce sera donc sur Public Sénat. On va parler de ça, on va parler de l'AstraZeneca. On n'y comprend plus rien. Si on voulait tuer un vaccin, on ne serait pas pris autrement. Le port du masque sur la plage, paraît que ça va devenir obligatoire, que c'est obligatoire.
Ah, c'est
et puis la loi sur la fin de vie.
Même sur les plages nudistes ?
Ben oui, il va rester que le masque. La loi sur la fin de vie, on l'a évoqué tout à l'heure dans le zapping, la loi obstruée par un grand nombre d'amendements. Est-ce qu'il faut reprendre ce débat ? Alors, coup de cœur, coup de gueule, Virginie, on commence avec vous. C'est un coup de cœur pour un livre.
Un coup de cœur pour un livre, enfin un album de BD, un album BD, de la dessinatrice Coco qui vient de reprendre la succession de Willem à Libération
qui fait la une.
Première une dessinée aujourd'hui.
Ce qui est une responsabilité tout à fait
importante.
Énorme. Et c'est la première femme qui se retrouve dans ce poste avec cette visibilité. Et je voulais dire à quel point son recueil de dessins qui s'appelle « Dessiner encore » et qui vient de sortir magnifique. Il y a quelques jours et qui a été écrit, après ou juste avant, je crois, le procès de Charlie Hebdo qui s'est tenu il y a quelques semaines. Ah non, avant,
après,
pardon.
Oui.
Avant, elle a commencé à y travailler avant et elle raconte d'ailleurs que ça l'a préparée à ce procès qui était la seconde étape de la suite des attentats de 2015 et que c'était des étapes fondamentales pour elle. Et cet album est d'une beauté visuel, l'utilisation des couleurs, des noirs et blancs, des marrons, les textes. C'est franchement un objet que je conseille à tout le monde d'acheter, de garder précieusement chez soi et de lire avec beaucoup de soins et d'émotions, parce que ça déborde d'émotions, de sensibilité.
Il faut rappeler que Coco est celle qui a ouvert la porte aux frères Kouachi.
Elle sortait pour aller chercher un de ses enfants à la halte garderie. Elle a été happée par les frères Kouachi qui l'ont obligée à remonter, à appuyer sur le code et à ouvrir les locaux de Charlie Hebdo. Et Coco raconte, toutes ces pages-là d'ailleurs sont extrêmement belles.
Oui, absolument. Il y a aussi le dessin de Luz que je vous conseille, qui avait publié Indélébile en 2018.
Donc ça s'appelle Dessiner encore.
Ouais. Indélébile qui était aussi d'une incroyable force picturale, c'était chez Futuropolis, et celui de Coco était effectivement tout aussi puissant. Dessiner encore, qui est paru aux éditions Les Arènes. Très bon conseil. Alexis, c'est un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule parce que j'en ai marre de cette Startup Nation en roue libre qui a pris place à l'Élysée. Aujourd'hui, l'Élysée annonce fièrement qu'il lance sa newsletter qui s'appelle Cocorico.
Voilà, on est dans la suite. Coco, Cocorico.
Alors, bon, je veux bien le clin d'œil, c'est marrant, c'est le Made in France et tout ça. Mais déjà, moi, ça m'avait un peu fait choquer quand la bannière sur les réseaux sociaux de l'Élysée était devenue la boutique en ligne de l'Élysée. Vous aviez les mugs à l'effigie du chef de l'État, vous aviez plein de trucs rigolos, clins d'œil, etc. Là, quand même, faire une newsletter pour dire tout ce qui va bien. C'est une feel-good newsletter de ce qui va bien. Alors, moi, ça m'a fait rire parce qu'en plus... je veux bien qu'on prenne ça au sérieux. Bon, ça ne l'est pas vraiment. En 98, j'avais inventé un truc qui s'appelait Bravo la France. C'était un site et on avait le point panache, justement, pour aller voir où est-ce qu'il y avait encore du panache dans ce pays. Donc, on n'en est pas loin. J'avais un peu trop d'avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Vous
on se moquait déjà à l'époque
en chef de ce Cocorico.
Peut-être. Je ne pense pas, malheureusement, compte tenu de mes sorties ici et ailleurs. Mais quand même, il y a quelque chose de déjà qui était là dans la première bulle Internet, qu'on retrouve toujours dans cette start-up Foundation aujourd'hui, de vouloir un peu en rajouter dans le côté potage, clin d'œil. Et est-ce que c'est franchement un titre responsable, une newsletter de l'Élysée qui s'appelle Cocorico? Il y en a qui vont trouver ça drôle, évidemment. Moi, je trouve ça plutôt tragique. Et après, on nous parle de l'abrutissement du débat, de la société du spectacle, etc. Mais je crois que certains l'accompagnent volontiers dans la tombe.
Éric Revel, vous en pensez quoi de ce Cocorico?
Oui, j'en pense que ça fait partie d'une stratégie de communication. Moi, je lis le lancement de cette newsletter Cocorico à la suppression de l'ENA. Oui. C'est un acte. Bah, c'est-à-dire que, en fait, le président de la République a commencé sa campagne électorale. Mmh. Il essaie de se remettre dans la poche le peuple, finalement. Oui. Cocorico, c'est quoi? C'est le cri de ralliement du peuple français. Mmh. La suppression de l'ENA, c'est quoi? C'est un symbole, on en reparlera tout à l'heure, jeté en pâture aux gilets jaunes. Donc, on voit bien que tout ça, en fait, c'est assez charpenté, c'est assez structuré. C'est comment tenter de reconquérir le peuple en lançant une newsletter Cocorico. Mon cher Alexis, si elle s'était appelée Startup France ou Startup Nation France, s'imaginez bien que ça ne marchait pas.
Cocorico,
ça fait partie, à mon avis, de la stratégie de reconquête tentée par le président de la République en vue de sa candidature à l'élection présidentielle en direction du peuple. Voilà.
Le tenter est pas mal. Ouais. Virginie
Oui, on reviendra tout à l'heure sur la suppression de l'ENA, qui pour moi est une mesure tellement populiste qu'elle en devient franchement...
Ça se voit, quoi. C'est
énorme. Enfin, on supprime l'ENA, histoire de donner satisfaction. Enfin, on y reviendra, je veux pas...
Oui, on va y revenir. Mais
pour
le
moi,
Cocorico,
c'est exactement du même...
J'ignorais cette newsletter, donc il faut aller sur le site...
C'est de ce matin.
D'accord.
Ouais,
en plus, il s'agit d'un pouvoir qui n'a jamais accepté de présenter la moindre excuse, qui ne reconnaît jamais la plus petite erreur, et qui ne cesse de se féliciter de tout. Pour moi, même la dernière imposture en date viendrait que maintenant, on se félicite d'avoir 10 millions de vaccinés au bout de 3 mois de campagne vaccinale.
Cocorico.
Voilà, je savais les garçons que ça allait vous faire plaisir. Et j'attends avec curiosité qu'on arrive à doubler ce chiffre dans un mois. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau défi, ça va être de faire en un mois ce qu'on vient de faire péniblement en 3 mois.
Voilà, mais que Cocorico, effectivement. Absolument.
Ça me fait penser à Colaro, en fait. Vous vous rappelez
du Cocorico, etc.
Oui, absolument. Et de dire, voilà, c'est la boucle est bouclée, quoi.
Oui, Serge Groix.
Tout ça est du feu de Dieu, j'allais dire.
Oui.
Bon, c'est pour remettre M. Véran dans la boucle, parce que là, on l'avait un petit peu oublié. Donc, il se désespérait, j'en suis sûr.
Oui, absolument. Alors, on va passer à votre...
On vient de le faire,
Alexis. Non, c'est Eric. Un coup de cœur pour l'Allemagne.
Ah oui, moi, je suis admiratif de l'Allemagne, de ses Länder et de la chancelière Angela Merkel, qui ont décidé, vous l'avez vu, de commander du Sputnik V.
Ouais.
Alors, je vais vous dire, on est quand même les derniers des derniers. Ouais. C'est quand même formidable. Parce que je vous donne mon billet qui risque de se passer la chose suivante. Le Sputnik V russe va obtenir, après la lenteur bureaucratique européenne classique de l'Agence européenne des médicaments, son feu vert. Okay ? Et donc, le Sputnik russe, le vaccin russe, va être éligible à la vaccination en France. Mais qui aurait été le plus malin dans l'affaire ? C'est les Allemands qui auront précommandé du Sputnik V, du Sputnik russe, du vaccin russe. Et quand il va être autorisé, vous savez ce qui va se passer ? On va dire, on en a commandé 75 milliards, mais on en a eu 2.
Vous
voyez ? Et c'est exactement ce qui va se passer.
L'Allemagne,
alors OK, il y a une vraie analyse à faire sur le couple franco-allemand, s'il existe ou s'il existe encore.
Ouais.
Parce que ce que vient de faire l'Allemagne en passant outre, finalement, les commandes groupées, loupées, trop chères de la communauté européenne, en fait, elle vient de donner un sacré croche-pied quand même à ce qui a toujours été, en tout cas, vendu comme tel, comme le couple, vous voyez, qui ne pouvait jamais se séparer, qui construisait l'Europe, crise après crise, qui était le couple franco-allemand. L'Allemagne vient de mettre un sacré petit croche-pied quand même à tout ça. Et du coup, le président de la République et la France donnent l'impression simplement de suivre. Donc, coup de cœur pour l'Allemagne qui a osé et qui risque d'avoir des doses du vaccin russe quand il sera autorisé, alors que nous serons obligés de reconnaître qu'on en a beaucoup commandé, mais que malheureusement, on n'est pas servi à temps.
Oui, eh ben, je ferai deux petites remarques, pardon.
Alors, attendez, Serge Grouard, Virginia,
je ferai deux minuscules remarques, Eric, sur ce que vous venez de dire. Les Russes ont déposé extrêmement tard leur demande d'homologation sur le bureau européen. Alors, c'est vrai que se rajoute à ce délai très tardif la lenteur de l'examination de ce dossier. Mais il faut quand même dire qu'eux-mêmes ne sont pas montrés très promptes.
Oui, mais ma chère Virginie, ce n'est pas le sujet.
Attendez, et je n'ai pas fini.
C'est que l'Allemagne en a commandé.
Oui, et bien justement, j'y viens. Si vous me permettez d'aller jusqu'au bout.
Nous n'en aurons pas.
Si vous m'autorisez à aller jusqu'au bout, crois que l'autre difficulté de ce vaccin, c'est que la Russie n'a pas tellement de capacité de production et comptait beaucoup sur l'Europe pour avoir les usines qui permettent de le produire sur le sol européen. Autre difficulté pour l'Europe, qui n'est pas très équipée encore pour reconvertir des usines. On a déjà vu la lenteur de celles qui se mettent à démarrer que cette semaine et qui ne sont pas du tout encore prêtes. Voilà. Donc ça c'est une vraie difficulté,
effectivement. Oui, Virginie, je suis tout à fait d'accord, mais pardonnez-moi, ce n'est pas le point que je soulevais. Le point que je soulevais, c'était de dire que l'Allemagne, et c'est ça le vrai principe de précaution, l'Allemagne nous donne une leçon de principe de précaution. Avant qu'un vaccin soit autorisé, il faut en commander, car s'il est autorisé,
ce que je veux dire, c'est qu'elle aura beau en commander, s'ils ne sont pas produits, elle n'en aura pas autant que ce qu'elle veut. C'est ça que je veux dire.
Serge Grouard,
vous voulez réagir.
Oui. Je voulais rebondir sur l'Allemagne qui nous donne plus que cette leçon-là, parce que j'ai essayé de regarder les chiffres et notamment le nombre de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. En France, on est à 4 800 000 personnes qui ont été contaminées. Quel est le chiffre en Allemagne que j'ai trouvé? Je pense qu'il est juste, c'est 3 millions. Alors que l'Allemagne vaccine un peu plus que nous, mais pas tant que cela, donc ce n'est pas le vaccin qui explique ce différentiel. Alors comment l'explique-t-on? Par le pragmatisme allemand. Vous allez en Allemagne, vous avez partout, par exemple, des autotests, vous avez des tests salivaires, vous allez faire de l'essence, vous pouvez acheter une boîte de tests salivaires, les écoles, puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de nos écoles, que l'on a refermées, eh bien les enfants en Allemagne sont régulièrement testés. Voilà, et ainsi de suite. Et là, ça montre effectivement que nous sommes dans ce système bureaucratique qui est toujours, toujours en retard. Il va falloir que l'on analyse vraiment cette pandémie à l'aune du fonctionnement de l'État.
Allez, véritablement. On va en reparler dans un instant. On marque une pause, c'est l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, pour débattre avec Virginie Legueuse, journaliste, éditorialiste politique, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis matins dans la matinale de Sud Radio pour l'édito politique. Éric Revel, vous êtes éditorialiste, et Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Donc on est parti sur le Spoutnik avec Éric Revel. Serge Grouard, vous étiez sur l'Allemagne, donc qui a anticipé. Alors on va revenir sur la suppression de l'ESNA, sur l'AstraZeneca qui, je crois qu'il y a eu une erreur dans le flash, ce sont bien les plus de 55 ans qui pourront être vaccinés avec l'AstraZeneca et non pas les moins de 55 ans. Et puis on va revenir sur la fin de vie. Mais donc sur l'Allemagne qui commande, qui prévoit, Serge Grouard, vous vouliez continuer à réagir à ce que disait Éric Revel.
L'Allemagne nous donne une leçon de pragmatisme. L'Allemagne, je crois que la chancelière, par exemple, travaille régulièrement avec les Länder, qu'il y a des communications permanentes qui sont établies, des échanges, des discussions pour les prises de décision. Nous, tout vient d'en haut, tout le temps, par des gens parfois qui ne connaissent pas la réalité du terrain et qui nous emmènent dans une sorte de toujours en retard. C'est un peu comme, c'est un peu comme le lapin, vous savez, dans... Alice au Pays des Merveilles, le lapin est toujours en retard. Nous sommes un peu le lapin, nous sommes toujours en retard. Et la gestion de crise demande au contraire une très grande réactivité, une capacité à s'adapter, une souplesse. Et tout cela, nous ne l'avons pas. Donc, nous avons besoin d'une véritable réflexion, je le redis, je le dis depuis des années d'ailleurs, mais le Covid au moins nous le met en lumière, c'est peut-être un de ses rares mérites, la nécessité de la réforme en profondeur de l'État. Ouais. Et ça passe par des choses très concrètes, très claires, très précises, comme une décentralisation forte, comme la déconcentration, c'est-à-dire de donner notamment aux préfets davantage de pouvoir dans les territoires. Ça passe par une réforme des cabinets ministériels, ça passe par une réforme de la production.
On va en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure avec la réforme de l'ENA. Vous vouliez redire une chose, vous, c'est Alexis Poulain qui voulait réagir
sur l'Allemagne
et cette anticipation qu'on n'a pas, nous.
Au-delà de l'anticipation, on voit bien qu'en France, on est là, alors avec Clément Beaune et d'autres, tous ces énarques hein, d'ailleurs, qui sont là à dire qu'il faut absolument respecter l'unité européenne, la règle européenne, la commission, etc., le moteur franco-allemand. Et puis de l'autre côté, outre-Rhin, en Allemagne, c'est bon, on va fermer les frontières, on va commander du vaccin russe, on va demander à Dassault de nous filer des secrets de fabrication aussi, sinon on ne fera pas d'Europe de la défense. Et on dit du côté français, mais vous vous rendez compte quand même ? Non mais attendez, c'est le moteur franco-allemand, on a fait toutes ces années, on ne va pas l'arrêter là. C'est une légende. Mmh. Je crois que ça commence à se voir. Je crois qu'aussi l'Allemagne commence à prendre ses distances avec la construction européenne parce que c'est elle qui n'a pas envie que l'Europe s'endette. Elle a mis un frein d'ailleurs au plan de relance, qui est un plan d'endettement européen, en disant, oulala, attendez, parce que vous, d'accord, vous vous endettez, mais qui est le créancier ? C'est nous. Et le risque, in fine, de cette crise sanitaire très mal gérée, hein, puisque l'Union européenne n'a pas compétence sanitaire, même si elle va imposer un passeport sanitaire avant la fin de l'été, c'est que l'Allemagne fasse un German Six, enfin, qui s'en aille sans le dire. Parce que finalement, l'euro et le mark, c'est la même chose, et qu'à un moment, la dette sera telle des pays du Sud que l'Allemagne n'a aucun intérêt à avoir un destin commun avec des pays qui sont en train de se tirer une balle dans le pied.
Possible, Eric, ça ? Un German Six ?
La question de l'endettement et des critères de Maastricht est clairement posée. Vous savez, les critères de Maastricht, pour ceux qui étaient dans ce hangar au fin fond des Pays-Bas, au moment où François Mitterrand, dans une conférence de presse très tardive, nous a annoncé la naissance de l'euro, ça c'était la bonne nouvelle. Puis la mauvaise nouvelle, c'était qu'il y avait plein de critères qu'il fallait respecter dorénavant. Donc les critères de 3%, les critères de 60% pour la dette PIB. Le problème, c'est que tout ça a explosé. Alors on cache derrière l'arbre de la crise sanitaire la forêt de l'endettement, mais c'est vrai que les Allemands regardent ça d'un très, très, très mauvais œil. Et où Alexis a raison, c'est que je vais prendre deux continents, enfin deux États pluriels, les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, moi, ma fille vit à Boston, ça redémarre, mais plein badin. Tout a réouvert, l'économie et l'indice de confiance des consommateurs explose, enfin, la résilience américaine. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi, Biden, l'administration Biden, voté et mis en application, ils verront comment ils le financent après, c'est eux qui impriment le dollar, ils s'en foutent, 2200 milliards de plans de relance. En Europe, depuis le 21 juillet dernier,
c'est rien passé.
On parle de ce plan de relance
européen,
750 milliards d'euros.
Rien.
Les Allemands, évidemment que les Allemands regardent ça de travers, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un euro fort. Sur la base d'un marque fort. La BCE a été construite sur les bases de la Bundesbank, idéologiquement. Les Allemands, ils regardent d'un très mauvais œil ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train de balayer les critères de Maastricht, le pacte de stabilité, la rigueur budgétaire. Alors, c'est un constat, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais on voit bien qu'il y a une divergence forte au-delà de cette affaire de vaccin entre l'Allemagne et la France sur l'orthodoxie budgétaire, à l'allemande ou à la française. Ou les pays du Sud, ceux qu'on a longtemps appelés les pays du Club Med, vous vous souvenez ?
Oui, absolument. On va passer au coup de cœur de Serge Grouard. Juste, je vais faire un... C'est pas de l'acharnement, c'est vrai qu'on en a parlé tous les jours, de Paris, de saccage Paris et tout ça, mais là, ce matin, dans Le Parisien, on nous apprend qu'il y a deux fontaines Art déco pesant plus de 20 tonnes qui ont disparu, porte de la Chapelle. Alors, elles avaient été retirées provisoirement le temps des travaux du tramway T3, mais ces deux fontaines monumentales de la porte de la Chapelle sont introuvables. La ville de Paris mène l'enquête. Serge Grouard, vous qui êtes maire, ça vous paraît possible que des fontaines pesant plus de 20 tonnes disparaissent ?
Écoutez, je vais être un peu superstitieux, donc je ne vais rien dire, mais ce que je peux vous promettre...
Au cas où vos fontaines à vous disparaîtraient à leur tour.
Je suis sûr qu'à Orléans, il n'y a pas de fontaine de 20 tonnes.
Allez-y, laissez-le parler.
Non, je ne les ai pas à Orléans, ça me paraît quand même un peu surréaliste. Si elle pèse 20 tonnes, il y a des gens balèzes quand même. Hein. Il y a des grands balèzes.
Il y a des grands balèzes.
Il n'y a pas une erreur, Valérie, ce n'est pas 2 tonnes ou 200 kilos, 20 tonnes.
Non, il y a la photo. C'est vrai que ce sont des photos monumentales.
Alors, c'est extraordinaire, monsieur le maire.
Je ne savais pas que David Copperfield avait été embauché à la mairie de Paris par Anne Hidalgo.
Je ne sais pas, vérifier, mais en tout cas, c'est... Pardon ? Elles étaient vides, elles ont été déplacées pour pouvoir permettre le pour pouvoir, mais elles ont dû être stockées quelque part, on ne sait où.
Oui. Je me dis, c'est que s'il y a des travaux, parfois, effectivement, on enlève du mobilier public le temps de travaux pour le remettre après. Alors, en général, on le retrouve quand même. On ne le perd pas en chemin. Bon.
Et à Paris, visiblement, elles ont disparu. Mais où est-ce qu'on a bien pu mettre ces foutues fontaines ?
Et où sont donc passées les fontaines ?
Voilà, on ne sait pas où elles sont. Voilà, je voulais vous faire...
Des bacs végétalisés.
Je voulais vous faire sourire avec ça. C'est déjà l'heure de la pub. On va y revenir. Oh. On va...
Mince.
Cocorico, c'est la pub.
Allez, un petit cocorico, ça va être notre nouveau générique, cocorico. Je vous rappelle cette newsletter que vous retrouvez sur le site de l'Élysée. Oh, on s'amuse bien ce matin. On va parler d'un sujet un peu plus grave, la fin de vie, dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Serge Grouard, Éric Revel, Alexis Poulain et Virginie Leguet. Alors Serge Grouard, votre coup de cœur, on vous écoute.
Merci. C'est un coup de cœur pour une grande dame de la chanson française. Je parle de Françoise Hardy.
Oui, exactement. Oui. Allez-y.
J'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre d'artistes et je n'ai jamais rencontré Françoise Hardy. Et pourtant, je voudrais lui dire, chère Françoise, je vous connais depuis tout petit. Vous êtes entrée naturellement dans mon monde d'enfant, toute discrétion, et puis vous n'en êtes plus sortie, avec d'autres, Paul Naref, par exemple. Au fond, la maison où vous avez grandi, c'est un peu la mienne. Et de ces artistes que l'on aime, on les pense éternels. Mais vous, avec l'élégance que l'on vous connaît, vous venez de nous dire ces derniers jours, et je vous cite, « Je ne peux pas rester comme ça en attendant que la mort arrive parce que je ne peux plus vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai très peur de souffrir. » En quelques mots, vous nous avez dit l'essentiel, vous nous avez dit toute votre humanité et la nôtre aussi. Et c'est un combat digne que vous menez là, chère Françoise. Vous dites « Quand je l'aurai décidé, laissez-moi partir. » Et moi, je voudrais vous dire, parce que l'on vous aime, on voudrait vous retenir pour encore un premier bonheur du jour ou peut-être un rendez-vous d'automne. Mais parce que l'on vous aime, on voudrait aussi vous aider à ne pas souffrir. Ouais. Et au-delà de tout cela, voilà que vous apprivoisez l'horrible septième sceau. Vous levez le tabou de la mort comme un apaisement, comme un détachement, peut-être une lueur de sagesse dans un monde fou. Alors voilà, chère Françoise Hardy, je ne sais pas comment te dire adieu. Mais ce que je sais, c'est que les artistes sont éternels. Voilà, j'ai écrit ce texte. C'est très rare, je n'écris jamais de texte, mais là, je l'ai écrit.
C'est très beau. Voilà. Très, très, très beau texte. Très, très bel hommage à Françoise Hardy, qui a effectivement déclaré qu'elle avait un cancer du larynx, qu'elle ne pourrait plus jamais rechanter. Elle a 77 ans, elle a eu d'autres cancers par la suite, qu'elle souffrait en ce moment parce qu'elle n'a plus de salive. Donc, cette intervention intervient au moment où il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale sur la fin de vie proposée par Olivier Falorni, et avec plus de 3000 amendements qui étaient destinés à contrer cette loi. L'examen de loi n'a pas pu dépasser l'article premier, malgré un large soutien. On ne l'a pas évoqué du tout, nous, cette semaine. C'est un sujet difficile. On l'a évoqué avec Emmanuel Hirsch. Mais c'est assez lamentable que sur un sujet comme celui-là, ce type d'opposition se fasse de cette manière. Éric Revel.
Oui, je vais vous donner mon sentiment, non pas sur le fond, mais alors il se trouve que j'en discutais hier avec Jean Leonetti, qui est le maire d'Antibes, mais qui est surtout le promoteur de la loi Claeys-Leonetti, vous vous en souvenez, sur l'accompagnement. Voilà, c'est pas une loi évidemment sur l'euthanasie, c'est une loi sur l'accompagnement, sur la mise en avant des soins palliatifs. Hein, donc je ne cesse de rappeler d'ailleurs que c'est François Mitterrand qui a levé un tabou sur les soins palliatifs. Vous vous en souvenez, lorsqu'il était président de la République, il avait préfacé ce magnifique livre de Marie de Henzel, La mort intime, où il parlait du retard de la France, sur les soins palliatifs. Mais pour en avoir discuté hier avec Jean Leonetti, moi, je vais vous dire ce que je regrette profondément. Bon, ces amendements législatifs au nombre de 2300, de 3000, devant lesquels, à la tribune de l'Assemblée nationale, le député Falorni, qui porte ce projet de loi, a trôné, bon, oui, d'accord. Mais le vrai sujet, à mon sens, c'est que sur une question aussi clivante, segmentante et qui entraîne toute la société française, on est fait l'économie d'un large débat. Moi, je pense que c'est le timing n'est pas bon. Ouais, ouais. Le timing n'est pas bon. Enfin, entre la Covid-19, entre l'élection présidentielle, d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas un peu des écrans de fumée dans tout ça. Mais le timing, à mon sens, n'est pas bon, Valérie. Ouais. Et surtout, cette question est tellement importante et elle est tellement personnelle, finalement. Elle est tellement liée intimement à ce que nous sommes et au rapport que nous avons quand on ose aborder la question à la mort, que ça mérite un large débat. Dans la société française, c'est pas sur, pardon pour Monsieur Falorni que je connais et que je salue en Charente-Maritime, mais ça mérite un large débat. C'est pour moi ça le vrai regret. Ouais. C'est pas les petites joutes parlementaires, voilà.
Oui. Bah, je suis tout à fait d'accord.
Allez-y, Alexis Poulain.
Désolé, avec Eric, ce qui sort de ça, c'est le timing, le brouillon, le fait qu'on n'ait pas pris le temps de discuter d'un sujet éthique, moral, philosophique, spirituel, qui est le rapport à la mort de toute une société. Et je trouve qu'il y a eu un très beau texte de Michel Houellebecq, on aime ou on n'aime pas, sur le danger finalement d'une société qui est prête à utiliser l'euthanasie, alors qu'existent les soins palliatifs. Hein. L'idée, c'est de combattre la douleur. On ne va pas combattre la mort, on va tous mourir. C'est quel rapport on entretient à la mort. Le fait de choisir sa mort, c'est louable. C'est la voie du samouraï, le hagakure, c'est on décide le moment où on veut arrêter. On peut tout à fait le faire et pourquoi pas.
Et pas comme le dit Madame Lefebvre, de se jeter du haut d'un pont.
Non, mais on peut faire ses poucous, par exemple. Ouais. Elle peut prendre un sabre et s'ouvrir le ventre, ça c'est possible, avec un ami derrière. Mais c'est pas le but.
Non, c'est pas le sujet.
Le sujet, c'est vraiment, est-ce qu'on veut rentrer dans cette idée-là de dire on va autoriser ça, et Robert Badinter, qui a lutté contre la peine de mort, le disait, attention, si on donne ce droit-là à l'État de terminer une vie, même si c'est pour le bien, on donne un droit terrible à l'État. Et c'est cette question-là qui est au cœur des débats, qui a totalement été éludée. Alors, je veux bien, l'idée est bien sûr d'abréger les souffrances, mais c'est pour ça qu'on a les soins palliatifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort? C'est encore une fois l'hôpital public en miettes, le fait que beaucoup de services, qui ont encore des déserts médicaux, qui n'ont pas accès à des systèmes et des unités de soins palliatifs à la hauteur. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les médecins sont déjà dans cette logique-là de ne pas continuer à tout prix, de ne pas se battre quand c'est nécessaire, mais d'abréger justement les souffrances et pas des abréger rapidement, mais juste dans le respect de la dignité de la personne humaine. Et on n'a pas eu ce débat, alors que c'est un débat profond. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'on y voit là des manœuvres politiciennes de bas étage. Et le débat est totalement oublié, alors qu'il est clé dans une réflexion globale, sociétale, de qui on est.
Serge Groix, pardon. Je
partage le fait d'éluder le débat. Je pense que l'Assemblée nationale ne pouvait pas débattre en quelques heures d'un sujet aussi grave.
Non.
Je ne veux pas défendre, je n'étais pas à l'Assemblée, je n'y suis plus depuis un certain nombre d'années, mais je pense que c'était l'objet aussi des députés qui ont déposé tous ces amendements, c'était de dire ne passez pas ce débat comme ça en quelques heures, il faut que l'on y revienne plus sérieusement. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça, je me trompe peut-être, et je pense effectivement qu'il faut que cela revienne. On voit bien l'attente aussi de citoyens, on voit bien la gravité de la question. Mais je crois que derrière, il y a tout de même le droit de chacun de disposer, d'avoir sa liberté profonde et la liberté du choix. Je retiens la question qui est posée. Pourquoi est-ce que un collectif, pourquoi est-ce que l'État viendrait me dire finalement à moi ou à n'importe qui, vous n'avez pas le droit? Donc voilà, on voit bien les sujets. Là, on voit bien les limites, on voit bien la difficulté. C'est pour cela qu'il faut vraiment un débat de société profond et un débat apaisé.
Oui, mais c'est un sujet qui est forcément clivant et qui aura du mal à être apaisé.
Valérie, si vous me permettez, je voudrais dire quelque chose à Alexis qui me semble important et qui fait le lien entre un sujet très grave et très sérieux. Et je remercie le maire d'Orléans pour ce très beau texte.
Très beau, vous devriez le publier.
Oui, mais pour lier quand même le débat sur... l'euthanasie, à la sauce belge, pardonnez-moi, à ce qu'a dit Alexis Poulain, qui n'est pas dénué de vérité, mais qui est un peu biaisé quand même, sur le problème qu'on a dans nos hôpitaux, c'est qu'on parlait de l'ENA tout à l'heure et de la réforme de l'État. N'oubliez jamais, mon cher Alexis, mais je suis sûr que vous le savez, que 35% de la fonction hospitalière, ce sont des administratifs.
Oui, Bien sûr.
Donc, je ne dis pas que tous les administratifs ne servent à rien. Ce que je dis simplement, c'est que quand vous rajoutez ces 35% d'administratifs aux 35 heures, j'ai pris exprès le chiffre de 35, ça fait quand même beaucoup pour l'hôpital public, qui est dans la situation qu'il connaît aujourd'hui face notamment à la vaccination et à la réanimation, parce qu'on n'a pas réformé notamment la fonction hospitalière.
Ah ouais, non, mais c'est un fait.
Voilà, hein. Ça, je veux dire, il ne faut jamais l'oublier, Alexis.
Alors, je précise, je précise juste, il y a une auditrice qui nous dit « Ah bon, parce que le sujet aurait été abordé, si l'autre n'avait pas parlé de cette star, je ne crois pas. » Eh bien, cette star, Françoise Hardy, elle prend position dans le débat, et il y a eu, pour votre information, madame, un débat à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, voilà. Et effectivement, un autre auditeur nous dit « Mais il n'y a que des aigris qui écoutent cette radio, des râleurs. » C'est vrai que, dans les commentaires qui ne sont pas très nombreux, on n'a que des gens qui râlent, qui disent c'est pour les riches, c'est pour les artistes. Ben non, justement, c'est justement parce qu'il y a des injustices qu'il faut en parler et qu'il faut qu'il y ait peut-être une loi, un débat public pour que ce ne soit pas réservé à ceux, et c'est pas forcément riches pauvres, à ceux qui ont un accès à un médecin, non, parce que qui sera
mais
plus compréhensif. Oui, Virginie,
ça,
on vous a pas
ça n'a rien à voir avec les riches et les artistes. Il se trouve que Françoise Hardy est extrêmement malade et qu'elle souffre d'un cancer du pharynx depuis plusieurs années et qu'elle est dans un état dont elle dit elle-même... insupportable. Je crois qu'elle met 6 heures par jour à s'alimenter. Ouais. Et elle, comme beaucoup d'autres qui sont dans des souffrances extrêmement effroyables, attendaient beaucoup malgré tout de ce sujet et sont extrêmement déçus de voir que tout ça n'aboutir à rien. Et elle l'a dit hier, Françoise Hardy, c'est pas parce que c'est une artiste, c'est juste parce qu'elle est très malade et dans des très très grandes souffrances. D'une certaine façon, le fait qu'elle soit artiste lui permet de s'exprimer au nom des autres qui peut-être ne le peuvent pas. Ouais. Et c'est là peut-être une position qu'on devrait saluer plutôt que critiquer. Mais je voulais dire aussi une chose...
En fait, ce n'est pas Anne, mais c'est Marius qui nous dit qu'on n'aurait pas abordé le thème si ça n'avait pas été une star. Pardon,
mais non,
Anne.
Pas du tout. Le thème a été coincé à l'Assemblée nationale et avait très peu de temps pour se développer. Et c'est là peut-être où il n'y avait pas de volonté politique de réellement prendre à bras-le-corps le sujet. Ouais. C'était à la limite, c'était une proposition qui était mort-née. On le savait que le délai était tellement court qu'il suffit il n'arrête pas grand-chose pour le rendre juste inutile. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Mais c'est une opportunité que beaucoup de très grands malades vivent avec un chagrin épouvantable.
Effectivement, moi je partage l'avis de Cédric qui nous dit si on écoute, Eric, ce n'est jamais le bon moment. C'est aussi ce que disait Emmanuel Hirsch, le timing n'est pas bon. Après, on peut se poser la question s'il y a un bon moment ou pas un bon moment pour parler de l'euthanasie.
Et de la souffrance, surtout.
Bah oui, si, sur un sujet, pardon, mais sur un sujet aussi fondamental, encore une fois, on l'a dit, que le rapport personnel qu'on a tous à la mort, on peut pas faire ça, je vais être un peu caricatural, voilà, on peut pas faire ça entre un quart de finale de la Champions League et une pré-campagne électorale présidentielle, pardon. Mais c'est un débat qui mérite des avis d'experts, qui mérite, j'allais dire, qui mériterait presque d'écouter chaque Français adulte qui pourrait se prononcer sur sa philosophie de la mort. Donc, sans aller jusque-là, pardon, mais je pense que la fenêtre de tir de M. Falorni pour essayer... Bon, ça met le débat, ça met le débat sur la table.
Oui, voilà, et on en a parlé.
De là imaginer qu'une loi qui allait changer la loi Claeys-Leonetti aboutirait dans cette fenêtre qui est extrêmement restreinte dans le temps parlementaire... Mais c'était, Virginie a raison, c'était couru d'avance. Donc quand on le sait, oui, je redis, c'était pas le bon timing. Ouais. Il faut du temps, il faut se pencher sur la question.
Je vous propose d'écouter Françoise Hardy, de la réécouter.
À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrances et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. Ma mère, elle a eu la maladie de Charcot et ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. Il faut que la France en fasse autant, enfin. Il faut faire cette loi.
Oui. Voilà. Et effectivement, après, c'est une décision et une question extrêmement personnelle, extrêmement personnelle. On se retrouve dans un tout petit instant pour parler de la suppression de l'ENA. Est-ce que vous approuvez Emmanuel Macron ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? 0826-300-300, est-ce que c'est une bonne chose de supprimer, l'ENA ? Cocorico ? Voilà. Merci à Bastien, notre réalisateur. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio avec vous, avec Virginie Leguet, Alexis Poulain, Éric Revel et Serge Grouard. La suppression de l'ENA, vraie réforme ou coup de com, beaucoup, beaucoup de critiques ce matin dans vos journaux et dans les différentes réactions. Emmanuel Macron l'avait promis après la crise des gilets jaunes et donc l'ENA sera remplacée par l'Institut du service public et réformer la carrière des hauts fonctionnaires. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, ça vous fait rigoler Alexis
Mais
Poulain.
Oui, parce qu'il supprime rien du tout Emmanuel Macron, il fait l'énarque, c'est-à-dire qu'il change le nom. Alors c'est un peu comme AstraZeneca qui a changé le nom du vaccin, comme c'est trop facile de dire ouh les méchants énarques, il va dire bon bah, maintenant c'est des gens qui sortent de l'ISP, alors trouvez-leur un nom. Alors ISPien c'est moyen. L'Institut du service public, mais ça reste à Strasbourg. Il y a un concours d'entrée, il y a un classement à la fin. Alors, il n'y a plus qu'un grand corps d'État. Et puis, on commence à faire plus de stages et dans le bas de l'échelle, plutôt qu'arriver à même pas la trentaine à commander tout un service avec la sagesse qu'on connaît de tous les énarques. Ouais. C'est vraiment un truc de l'habillage, quoi. Et vraiment, je crois, une diversion utile en temps de campagne présidentielle qui commence, de dire « j'ai au moins tenu cette promesse-là, alors que c'est faux, hein, l'ENA reste, il change juste de nom, alors que toutes les réformes qu'il a engagées sont jusqu'à présent embourbées dans la crise du Covid, ou n'ont pas vu le jour, ou enfin bref, ce quinquennat va de fiasco en fiasco. Donc l'idée de dire, bon, on arrive, il faut que je me refasse une image cocorico ou quoi, avec la suppression de l'ENA pour faire plaisir aux Gilets jaunes, ce qui n'était pas du tout une demande des Gilets jaunes. Il faut savoir que les cahiers de doléances qui ont été remplis en mairie dorment aujourd'hui dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale de France. Donc on n'a pas vraiment accès à ces cahiers de doléances. Lui, Emmanuel Macron, s'était mis en scène, rappelez-vous, c'était le grand débat, hein, c'était le grand baratin. et aujourd'hui, bah voilà, il nous fait à nouveau une diversion, tel un magicien. Alors c'était la une de Coco dans Libé, avec son chapeau, il fait disparaître le lapin. Mais c'est un peu comme Garcimore, j'ai envie de dire, c'est moi, je sais pas.
Virginie, c'est...
Moi, je trouve que c'est une annonce totalement populiste qui consiste à offrir en scalp l'ENA à ceux qui lui attribuent tous les mots. Et beaucoup plus grave, c'est une démission à peine déguisée du pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique qui a été élu, je rappelle que moi je ne vais pas voter à chaque élection présidentielle pour un grand directeur d'administration centrale. Je vais voter pour un président de la République qui lui-même choisira son gouvernement. Donc c'est à eux de fixer le cap, c'est à eux dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Et c'est pas à eux de se retourner de temps en temps vers cette soi-disant masse énergie de fonctionnaires récalcitrants qui les empêcherait d'agir. Je trouve que c'est d'une lâcheté et d'une faiblesse politique folle que Emmanuel Macron a acté sans le dire, en disant oh, je vais supprimer l'ENA. Je rappelle qu'il s'était engagé à faire une très grande réforme de la fonction publique et que c'est pas la suppression de l'ENA qui va y changer quoi que ce soit, et que régulièrement je l'ai entendu depuis un an dire oh, mais vraiment je suis pas content parce qu'on n'a pas fait ce que j'ai demandé, on n'a pas fait ce que j'ai dit. Mais j'allais dire, mon gars, t'as qu'à réellement vouloir que ce que tu dis et ce que tu fais soit appliqué. Les hauts fonctionnaires devant lesquels soi-disant tu es impuissant, agirait autrement s'il sentait en toi une détermination sans faille. Peut-être que tu ne sais pas toujours où tu vas et que peut-être que l'administration, du coup, elle s'engouffre dans ses failles et ses interstices. Mais un pouvoir politique fort doit pouvoir être capable de diriger une administration.
Oui, et reporter toute la responsabilité sur cette école, en faire un symbole et quelque chose de
surtout
de,
quand on en vient. Enfin, c'est très facile.
Eric,
on l'a fait soi-même.
Crevel.
Oui, c'est... C'est une bonne copie des narques, en fait. c'est pas faux. Les narques, ils résonnent juste, ils résonnent fort, ils intellectualisent les problèmes, il a des solutions, il connaît les rouages. Alors, Emmanuel Macron, acte 1, l'État profond est un problème dans notre pays. Dès que j'arriverai au pouvoir, j'ai bien compris, la copie des narques est parfaite. Je réformerai l'État, et comme ça prendra un peu de temps, d'abord, je changerai tous les directeurs des administrations centrales, car il n'est pas normal que des énarques, les mêmes, succèdent, quelle que soit l'alternance du pouvoir politique, à d'autres énarques. Bravo, très très belle copie d'énarques, voilà. Emmanuel Macron. Mais dans l'action, qu'est-ce qui s'est passé ?
Rien depuis 4 ans.
Les directeurs d'administration centrale n'ont pas été changés.
Non,
mais sont toujours les mêmes, quel que soit le pouvoir. Je vous raconte cette anecdote, si vous me permettez. Jean Arthuis, vous vous souvenez de Jean Arthuis, ministre des Finances. Un jour, il me fait cette confidence. Il me dit, quand je suis arrivé à Bercy, j'ai demandé dans les premières semaines qu'on me donne la grille des salaires et le nombre de fonctionnaires qu'il y avait à Bercy. Jean Arthuis a quitté Bercy un an et demi plus tard, il ne l'avait toujours pas. C'est résumé. Donc si vous voulez jeter en pâture les énarques, moi je peux le faire, etc. Mais ce n'est pas ça qui va alléger la bureaucratie française.
Exactement.
Vous comprenez que ce qu'a dit Virginie est un exemple très concret et très juste.
Ouais.
Emmanuel Macron ne comprend pas, visiblement à l'Élysée, pourquoi quand il dit « on va vacciner samedi, dimanche, lundi, mardi, matin et soir, vacances », ça ne fonctionne pas. Et parce qu'il ne connaît pas les rouages bureaucratiques, mais, visiblement.
Bah, il devrait les connaître. Parce
qu'il a appartenu toujours à la haute fonction publique,
bah, justement.
Ou à la haute banque d'affaires. Donc, en fait, ce qu'il faudrait peut-être que le président de la République comprenne, c'est qu'on a tellement de rouages administratifs dans ce pays qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tous les engrenages tournent dans le même sens. C'est exactement le contraire qui se passe. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas.
Mais Emmanuel Macron connaît très bien les rouages de l'État. Au bout de 4 ans, on les connaît très bien. Les ministres les connaissent très bien. Il s'agit malgré tout d'exercer un pouvoir de façon forte. Baisser les bras d'entrée.
Serge Grouard.
Oui, je me présente en fait.
Vous avez fait l'ENA ?
C'est Vidocq. Ah. C'est Vidocq parce que je connais le système de l'intérieur.
Vous êtes énarque, Serge Grouard ?
Je suis passé par la scolarité à l'ENA. Il y avait à l'époque plusieurs concours qui permettaient d'accéder à l'ENA. Et j'ai passé un de ces concours et j'ai fait une scolarité à l'ENA. Donc, je connais bien le système. J'ai enseigné aussi dans les préparations à l'ENA, à Sciences Po, etc. Je crois pouvoir dire, pardon de la prétention, mais que je connais bien le système. Et je dirais que là, c'est vrai problème et fausse solution. Le problème clé pour moi, pardon, je vais peut-être rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, dans des choses très précises, mais je pense qu'il faut, pour faire simple, conserver l'ENA. Parce que c'est une belle école. Alors, désolé, il y a peut-être beaucoup qui nous écoutent et qui vont trouver que ce que je dis est choquant, scandaleux, tout ça. Mais je le dis parce que je le pense. Mais en revanche, ce qu'il faut réformer, c'est la sortie de l'ENA. C'est absurde qu'à 27 ou 28 ans, vous sortiez dans les grands corps de l'État, grands corps de l'État qui contrôlent l'État et vous contrôlez l'État sans le connaître. C'est ça l'absurdité. Et après, vous avez une carrière toute déroulée devant vous, où vous êtes effectivement, comme il vient d'être dit dans ce débat, dans les sommets de l'État, mais vous n'avez jamais vu ou presque la base. Et je suis au regret de dire, je suis désolé, mais les ministres ne connaissent pas l'administration. Moi, j'ai été fonctionnaire. J'ai vu passer un certain nombre de ministres. Je sais comment faire pour orienter le ministre. Alors, c'est pour cela que je dis que je suis Vidocq. J'ai vu toutes les arcanes administratives. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il faut réformer l'État. Mais comme vous disiez, oui, le réformer vraiment.
L'État qu'il faut réformer, bien sûr.
Sur les vrais sujets. Et là, c'est redoutable parce que vous allez avoir une opposition politique-administration, bien sûr. Mais ce que je dis aussi, parce que je le sais, c'est que l'administration, elle est loyale, elle est compétente et elle est honnête dans ce pays. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut que le politique assume ses responsabilités.
Et si elle est bien dirigée, elle travaillera bien.
Alexis, je voudrais ajouter une chose quand même. C'est que là déjà, donc c'est pas une dissolution, une suppression, c'est on change les choses.
Non.
Mais on a affaire là à un gouvernement qui est chimiquement pur en matière d'énarchie. On a un président énarque, un premier ministre énarque, un secrétaire adjoint général de l'Élysée, pardon, énarque, un directeur de cabinet du premier ministre énarque, plein de ministres. Ça s'est jamais vu. Là, toutes les planètes sont annihilées. C'est le gouvernement qui coûte le plus cher de la Ve République, le gouvernement Castex, et vous voyez les résultats.
C'est la une et le dessin de Coco, la une de Libération, où on a un Emmanuel Macron qui sort un bonhomme du chapeau en disant et hop, je supprime l'ENA, et derrière lui une porte ouverte avec des masques, des seringues, avec tous ces placards encombrants pour le chef de l'État. Et puis ce tweet que je viens de voir de Rafik Smati qui retweet Jean-Baptiste Djebbari, notre ministre des Transports, qui dit
la Légion d'honneur.
Trop lent, trop compliqué, trop cher, il y a beaucoup de freins à l'innovation. C'est pour les lever que j'annonce aujourd'hui la création de l'Agence de l'innovation pour les transports. Et encore un machin.
Non mais c'est dingue.
Quiconque a vu les organigrammes qui ont circulé depuis quelques mois du monde de la santé et les différentes structures et organismes qui se superposent, ne se parlent pas entre eux, n'ont pas les mêmes fichiers, n'ont pas les mêmes données, quiconque a vu ça peut comprendre à quel point le système est bloqué et paralysé.
Quand même, moi, j'ai...
Et c'est ça qu'il aurait fallu corriger plutôt que de changer une école.
Je salue le changement de nom quand même, parce que ça s'appelle Institut du Service Public, et j'ai naturellement envie de dire Institut Supérieur du Service Public. J'aurais mis ISSP avec le supérieur, et ils ne l'ont pas fait. C'est sympa.
Ça va venir.
Mais ce qui est marrant, c'est rien changé à rien, en fait.
Mais ce qui est assez marrant ce matin, quand même, c'est que tout le monde tire à boulet rouge sur cette décision, en disant c'est absurde, etc. Alors que avant-hier, tout le monde disait l'ENA, ce machin, ça sert à rien, etc.
Sûr de cela. C'est une idée, effectivement, qui est répandue et on entend ici ou là, il faudrait supprimer l'ENA. Mais quand vous rentrez un petit peu dans le sujet, en fait, d'abord, je suis désolé de le dire, mais personne ne connaît vraiment cette école.
Absolument.
Donc, c'est une représentation que l'on a. On ne sait pas ce qu'on y fait ou ce qu'on n'y fait pas. On ne sait pas vraiment qui en sort, parce qu'on parle de quelques, j'allais dire, têtes d'affiche. Mais si aujourd'hui la haute administration, l'administration française, elle tourne quand même, c'est parce que y a des gens qui ont de la compétence, etc. Alors, je ne veux pas faire esprit de corps et défendre tout ça. Je ne défends pas. Je vous ai dit, je suis vidoc. Mais il faut faire la part des choses. Là, il faut du discernement dans ces réformes. Et pour cela, j'en suis persuadé, il faut connaître de l'intérieur.
Absolument.
L'un des drames, c'est que l'on a des gens qui décident et qui ne connaissent pas. Il faudrait pouvoir commencer par faire un certain nombre d'années dans la fonction publique. Moi, tout à l'heure, quand je vous parlais, vous m'avez demandé si je suis passé par cette école. Franchement, là, je vous interroge tous les quatre. Est-ce que vous auriez dit oui ou non ? Vous auriez dit non ?
Non.
Vous voyez, tous
les gens... Ah non, moi, j'aurais dit oui.
Encore une fois, regardez ce formidable documentaire demain sur Public Sénat. Alors, c'est à 21h, vous pourrez le voir en replay, mais on y apprend que 90% de ceux qui passent par l'ENA se retrouvent dans l'administration à des postes importants, mais pas avec les salaires du privé, et que c'est assez loin, finalement, de l'image qu'on en a. Il y a 3% seulement des énarques qui sont politiques, 3 ou 5%, du chiffre. Et c'est vrai qu'il y a Jean-Pierre Chevènement qui s'exprime, et ça donne une autre image de cette école. Le documentaire commence en disant cette école qu'on adore détester, on la connaît assez peu, et on connaît assez peu le fonctionnement.
On ne connaît que les grands corps,
l'inspection générale des finances.
C'est ça. C'est ce que je viens de dire, le Quai d'Orsay.
Le Quai d'Orsay, c'est le Conseil.
Le Conseil d'État.
Serge Grouard, Conseil d'État, Conseil des...
Inspection des Finances et Cour des Comptes.
Il n'y a pas le Quai d'Orsay. Allez.
Mais il faut rappeler quand même qu'à l'origine, c'est De Gaulle qui crée cette école moderne, ouverte aux femmes, etc., pour éviter la débâcle de 40, pour éviter un gouvernement qui se mettra à genoux et collabore avec... En disant, il faut justement un État fort. Il faut créer des hauts fonctionnaires qui auront une colonne vertébrale solide. Et voilà où on en est aujourd'hui, à faire un ISP... qui va être on ne sait quoi.
Allez,
on a eu un État fort qui a fonctionné du feu de Dieu dans les années 60, puisque vous citez le général de Gaulle. Et le général de Gaulle a eu une administration à sa disposition qui lui a permis tout simplement de redresser la France.
Absolument. On marque une petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nos auditeurs sont un peu dubitatifs sur cette suppression de l'ENA. Effectivement,
ils ont bien raison.
Ce pays est pourri par son administration et à tous les niveaux, même la gestion des villes moyennes est un florilège de gâchis. Je ne vais pas continuer de payer à rien foutre. Un bon coup de balai, mais qui aurait le courage de tenir le manche? Serge Grouard, vous êtes une ville...
Je voulais que je me fasse mon autopub, là.
Voilà, faites votre autopub. On a Jean de Longjumeau qui voulait réagir à cette suppression de l'ENA. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous êtes restaurateur, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio. Comment vous vous en sortez déjà?
On est sous perfusion, donc on attend.
Ouais. Bon.
Et une date. Ouais. Mais moi, à titre personnel, je ferai de la vente à emporter, mais j'arrête la restauration. J'ai commencé à 14 ans, je ne vais pas refaire ma vie à 62.
Ah ouais, donc
c'est ce que l'État va me proposer de faire, c'est-à-dire de repartir plein de dettes et de redémarrer mon activité comme il y a 35 ans. Donc c'est non.
Donc vous allez arrêter.
Vente à emporter, toujours la passion de la cuisine, parce que j'ai besoin de cuisiner, j'adore ça, c'est vraiment une passion comme un peintre, mais la restauration, retrouver tous les emmerdements qui vont être multipliés par 100, donc non.
Donc
mais
vous...
je crois que je ne suis pas tout seul, on est tous en pleine réflexion.
Ouais.
Le personnel, on ne sait pas où il va être, on ne sait pas ce qu'il va abandonner aussi,
Absolument.
Donc non, c'est plus dangereux que la fermeture, la réouverture, je crains malheureusement, même si tout le monde a envie de prendre un café sur une terrasse. Mais un café pour nous sauver, ça suffira pas.
Bien sûr. Vous vouliez nous parler de l'ENA.
Oui, je trouve, je suis pas nouveau par rapport à tout le monde. Je pense que c'est effectivement, quand on dit qu'il y a une connerie qui se fait en France, on dit que c'est un énarque. Donc c'est vrai que Macron supprime une image détestable des énarques. Moi, ce qui m'interpelle et ce que j'observe dans ma vie, dans la vie syndicale où je côtoie des... Ça m'arrive de côtoyer des ministres ou des secrétaires d'État, c'est de voir que l'administration a pris le pas, et même un maire, son administration prend le pas sur le politique. C'est ça surtout le problème, c'est que les énarques sont des gens qui sont formés à l'administration, mais au service des politiques. Ils sont là pour les conseiller, ils sont pas là pour prendre des décisions à leur place. Moi, j'ai connu une attachée parlementaire d'un député dans mon département et qui était aussi ministre sous Raffarin. Et qui me disait, moi, je suis une technicienne. Je suis là pour dire à la personne qui est mon employeur, c'est-à-dire le député, vous voulez faire ça, voici telle, telle, telle solution. Maintenant, c'est vous qui prenez la décision, c'est pas moi. Et aujourd'hui, je crains que souvent, c'est le permanent, le fonctionnaire qui prend des fois les décisions. Et j'ai entendu Julien Drey, il n'y a pas très longtemps, qui a donné une définition assez, assez terrible, qui disait, quand un ministre arrive dans son ministère, et l'administration du ministère va d'abord le jauger, c'est-à-dire que dès qu'il va arriver, le ministre va dire voilà, je voudrais faire ça, on va lui dire c'est pas possible. Mmh. Et ils vont assister jusqu'à temps pour voir si le ministre, s'il va jusqu'au bout,
s'il
va plier, est-ce qu'ils vont, ils vont qu'il faut que d'abord le ministre se fasse respecter de son administration. Et j'ai trouvé ça pour quelqu'un qui a un parcours politique qui connaît bien le sujet. Ouais. Et j'ai déjà entendu d'autres. Donc c'est l'administration, Léna. Et là, bon, bah, Macron, effectivement, c'est un gadget, quoi. Je veux dire, c'est vrai, quand on dit ça a été mal fait, c'est forcément été fait par un énarque, parce qu'on suppose que l'énarque va tellement calculer la chose qu'avant de mettre un coup de bêche dans le champ, il va y réfléchir 50 fois. Ouais. Alors que nous, c'est vrai qu'on est peut-être plus pragmatique, mais je veux dire, c'est une image. Il veut enlever une image, mais enfin, c'est comme la...
Mais vous vous dites la
les taxes, hein, elles changent de nom, je veux dire,
l'école.
L'impôt qu'on avait sur les pour pouvoir travailler, il a été modifié. Ça s'appelle autrement. Hein,
c'est... Oui, c'est ça. C'est uniquement un changement d'intitulé.
C'est cosmétique.
Ouais. C'est bon. Entre l'intérêt en ce moment, quoi. On s'en fout un peu.
Hein. Oui. On s'en fout. Oui. Alors effectivement, c'est ce que ça fait diversion. Merci Jean et bon courage pour faire diversion en fait.
Mais complètement.
Aussi.
Mais ce témoignage.
C'est jeter
Jean
un os. C'est ce que disait Virginie. Jeter un scalp.
C'est jeter un faux scalp puisque tout va continuer comme avant à peu près. Enfin, c'est une stratégie vraiment. Politicienne assez mal faite avec des gros sabots qui va sans doute faire boomerang parce que c'est ridicule d'annoncer ça maintenant. En plus, en disant fonctionnaires, tenez bon, alors qu'on sait très bien que l'État va couper dans la fonction publique, va tout faire pour réduire les dépenses parce qu'on est endetté comme on ne l'a jamais été. Et cette dette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer des faillites. Vous avez entendu Jean, il a dit je ne vais pas recommencer. Vous voyez maintenant, ça commence dans les rues des villes, les boutiques à louer, à vendre, ça y est, c'est parti, ça ne rouvrira pas. Et même si Bruno Le Maire, qui était sur cette antenne ce matin, attend le rebond hein, avec des chiffres imaginaires en disant que ça va redémarrer et vite, je crois malheureusement que là, on s'enlise dans une crise de long terme avec une faillite organisée.
Oui, Éric.
Oui, non, un énarque vous ferait remarquer, mon cher Alexis Poulain, un énarque vous ferait remarquer que ce n'est pas la dette qui va créer des problèmes aux entreprises, mais c'est le manque de chiffre d'affaires les difficultés à rembourser le fameux prêt garanti par l'État.
Bah, voilà. donc dette.
Sur le rebond de l'économie française, écoutez, en tout cas, je pense que le ministre, j'ai écouté évidemment sur Sud Radio ce matin, mais...
Bruno Le Maire qui était invité.
Le passé lui donne raison. Regardez ce qui s'est déroulé au mois de juillet, quand on a cru qu'avec l'été, on pouvait danser jusqu'à l'infini, l'économie française a rebondi. Ouais. On est sur une récession quand même en 2020 de -7, -8%. Là, les chiffres de Bercy ont été revus un petit peu à la baisse. On est sur une croissance de 5%. Mais si c'était le cas en 2021, ça peut être un très, très, très joli rebond. Et je pense que, vous savez, dans un pays comme le nôtre, Alexis, par rapport à la structure allemande, ce n'est pas les exportations qui font tourner l'économie française, c'est la consommation des ménages. Mmh. Mais les ménages français ont tellement de contraintes aujourd'hui, perdues entre le couvre-feu et le confinement qui n'en finit plus, que dès l'instant, je pense, et c'est une intuition psychologique, qui est l'un des ressorts de la consommation des ménages, dès l'instant où ces contraintes vont être levées, les Français vont avoir envie de rattraper le temps perdu pour ceux qui le peuvent, voilà. Pour ceux qui ont un pouvoir d'achat suffisant.
Et je
pense qu'on aura un très joli rebond de l'économie.
Ouais. Serge Groix.
Pour que ce rebond, je l'espère aussi, mais je crois que à la suite de ce que disait notre auditeur, le problème, c'est qu'il faut que l'on anticipe la sortie de crise. Or, on est toujours dans la gestion de crise, le vaccin, il y a raison, parce que c'est essentiel, mais il faut l'anticiper. Maintenant, il faut donner une perspective. On a quand même maintenant à peu près l'idée du quand on va sortir de la crise avec la vaccination. Et donc, il faut la préparer dès maintenant, parce que moi, ce que je crains, c'est la casse en route. Et ce qui a été dit, ben moi, je repars pas, je recommence pas, parce que ça vaut pas la peine. Ouais. Et ça, on d'avoir ces défaillances en cascade, et pour les empêcher, pour les limiter en tout cas, il faut qu'on anticipe maintenant, et ça je ne le vois pas non plus. Puis je voudrais dire une chose sur ce qui a été dit, parce que ça me paraissait très intéressant, quand notre auditeur a dit finalement « les ministres ne dirigent pas, c'est l'administration qui dirige ». Il a raison, il a en partie raison, mais trop souvent raison. Et cela, il y a deux réponses. C'est un, la compétence de celles et ceux qui dirigent, qui sont dans les ministères, qui sont ministres concrètement. On a des savants équilibres quand on nomme un gouvernement. Ouais. La question de la compétence, elle intervient quand même souvent en dernier ressort, excusez-moi de le dire. Ouais. Et puis, il y a la question fondamentale de la durée. Combien a-t-on eu, par exemple, de ministres de l'Intérieur depuis le début de ce quinquennat? Bon, combien il y a eu de ministres de l'économie et des finances? Ça ne fait que passer. Donc, l'administration, elle a la durée pour elle. Oui. Donc, le ministre, il passe, à peine est-il arrivé qu'il est déjà reparti. Comment voulez-vous qu'il s'installe? Comment voulez-vous qu'il dirige son ministère? Il faut de la durée. Oui. Les ministres devraient être nommés pour la durée d'un mandat, sauf problème, évidemment.
J'ajouterais une chose, moi, qui me paraît tout à fait aussi grave, c'est que un ministre qui vient d'être nommé et qui tient à le rester le plus longtemps possible ne prend pas forcément le risque de se heurter à son administration, de transformer son travail au ministère en guerre de tranchées avec une administration qu'il voudrait absolument mettre au pas. Et quand il constate qu'il y a des résistances, assez facilement, il se dit « tant pis ». Je gagne du temps, je reste là où je suis et je ne prends pas la situation à bras-le-corps. Moi, je trouve que depuis peut-être plus longtemps qu'on ne le pense, mais en tout cas depuis quelques années de façon extrêmement visible, il y a clairement une démission politique face à l'administration, parce que les politiques sont dans un calcul de carrière, un calcul de nomination, un calcul d'avancement, alors que l'administration, elle se dit, moi, j'ai vu passer je ne sais pas combien de ministres, ou j'ai vu passer je ne sais pas combien de présidents de la République, je n'ai peur de personne. Et les hommes et les femmes politiques, malheureusement, ont d'autres soucis que de se heurter à ce qui, effectivement, peut apparaître comme une résistance quand ils arrivent à leur poste.
Oui. Alors, on va dire quelques mots donc de ce sujet. La carte des départements où le masque sur la plage est obligatoire, là aussi, on est un peu chez Ubu, hein, parce que vous avez du rouge, du vert et du orange. Donc le vert, c'est vous n'avez pas besoin de porter le masque, donc c'est Calvados, Manche. Attention. Le rouge, c'est la Somme. Alors la Bretagne, c'est compliqué parce que les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, certains m'en voudront de dire Bretagne, c'est rouge, mais le Finistère tout au bout, c'est vert. La Gironde, les Landes, c'est vert, mais la Charente-Maritime, c'est orange. Orange, ça veut dire que la réglementation est différente selon les communes. Donc vous avez intérêt à...
Attendez, c'est absolument, c'est ridicule, c'est ridicule. Là, je suis dans le sud en ce moment. C'est quand même absolument ridicule. Moi, ce que je soupçonne, je vais vous dire, c'est que ce soit un argument qui soit passé auprès de la décision politique de ceux qui produisent des maillots de bain, vous voyez, parce que dorénavant, il faut le dire, il faudra avoir son masque en tissu. Du même tissu, du même coloris, du même motif que son maillot de bain. Ce sera d'un effet éblouissant, mais c'est pas possible.
Non, mais surtout, comment tu te baignes avec un masque, quoi.
Un problème lourd, c'est...
Et avec un tuba, c'est compliqué.
Comment ton bronze?
Serge Groix.
Je comprends le triptyque, là, finalement. Hein. Mais comment on bronze? Parce que c'est ça le problème, vous imaginez que vous avez votre masque et après vous l'enlevez et vous êtes tout blanc là et puis le reste...
Moi j'ai hâte de voir Éric Revel avec son tuba, son masque, son maillot de bain, partant fièrement vers la mer.
Promis, vous savez qu'on se baigne quasiment tous les jours dans les Alpes-Maritimes, En tout cas, en ce moment, je vous enverrai une photo.
Ah oui.
Peut-être
ah
pas ouais. avec un tuba, mais je mettrai un masque exprès pour
vous. Bah oui, non, vous laissez avec plaisir. Vous faites quoi? Vous mettez un sac plastique pour mettre votre masque quand vous allez vous baigner? Vous faites comment?
Non, moi j'ai une méthode parce que je fais très attention à ce qui ne tombe pas dans l'eau, justement. Ouais. En fait, je l'attache avec un des lacets de ma chaussure.
Et
le masque.
Et juste.
Vous mettez avec une chaussure.
Antoine Flao, donc épidémiologiste, professeur de santé publique, dit que le port du masque sur une plage publique, même bondée, n'est justifié par aucune étude scientifique, que le virus a priori est neutralisé par la sécheresse et les rayons UV. Il y a le vent et il dit, moi je suis prêt à changer d'avis si on me présente des quatre clusters qui ont eu lieu sur une plage. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu invraisemblable.
La surfeuse qui avait été arrêtée lors du couvre-feu en Espagne la première fois.
Ouais.
Là, on va nous faire porter des masques sur la plage. On avait interdit de se balader dans la nature lors de la première fois. À un moment, je crois qu'il va falloir désobéir ou revenir à la raison, de manière collective.
Alors,
c'est dingue. Non, mais soit c'est de l'humiliation volontaire, soit c'est de la bêtise. Et puis attention, il y a des couleurs de masques qui sont interdites. Hein. Si vous portez masque jaune sur les Champs-Élysées, c'est amende. Mais c'est arrivé le week-end dernier, c'était...
Mais pourquoi
parce que masque jaune, tout signe proche des gilets jaunes, interdit sur les Champs-Élysées. Je vous jure, c'était samedi. Ah ben, vérifiez, c'est une vraie nouvelle. Donc le masque jaune, c'est attention, danger.
Alors peut-être qu'on reviendra sur cette décision, puisque l'Espagne est revenue en tout cas sur le port du masque.
J'espère, mais
pour que les
idiots qui nous pondent des idioties reviennent sur leurs idioties, il faut être nombreux à leur dire stop, ça suffit.
Allez, merci à tous, merci à vous. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Merci et pas à lundi, je serai pas là. Voilà.
Bonne journée.
Bonne journée
à tous.